Bien bonjour, bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service après 2 semaines de vendredi de vacances. J'espère que vous allez bien tout le monde et j'espère ce matin que vous êtes tout au chaud quelque part. Nous le souhaitons vivement. Alors ce matin, c'est l'édition du vendredi 5 janvier 2018, et oui déjà, avec moi en studio, Francine Forget. Bonjour Francine.
Bonjour Hélène, je vous souhaite une belle année 2018, remplie de santé, bonheur et beaucoup de plaisir.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Bonjour Mathieu, qui est à la régie.
Notre... Guten Morgen.
Oh là là! de notre Allemagne adorée, voici Mathieu.
Ça va bien?
Oui, ça va bien, merci. Alors voilà, ce matin, nous allons y aller avec différents sujets. D'abord, Francine, j'ai lu votre présentation, mais je vous laisse en parler. Qu'est-ce que c'est? De quoi allez-vous nous parler?
Alors, en 2017, on a parlé du réseau Internet des arbres. On commence 2018 avec l'intelligence des plantes. Voilà, rien de moins.
Rien de moins.
Non, on parlera aussi de la mode du bio qui, semble-t-il, n'est pas vraiment encore arrivée ici.
Mais ça, je suis très surprise.
Moi aussi, mais vous allez comprendre. Okay. Et ensuite, certainement, restons zen, les aides arrivent.
Fascinant, j'ai hâte beaucoup. De mon côté, je vais vous parler d'une très belle chorale pour femmes en détresse, une belle chorale dirigée par une violoncelliste à la retraite. Il faut vraiment que je vous raconte ce qu'il en est. Ensuite, j'ai un bel entretien qui a été fait avec Mme Jeannette Bertrand. Et par la suite, pour le plaisir, on va vous parler des bienfaits de la sieste. On vous revient dans un petit moment. Alors voilà, nous allons débuter avec les plantes, même s'il fait un froid rigoureux à l'extérieur. Je pense que vous allez nous réchauffer le cœur avec cette chronique. À vous, Francine.
On espère. Alors, dans Science et Vie, en décembre 2017, on a publié un dossier très, très fouillé sur les plantes et leur intelligence. Alors, je vais commencer aujourd'hui à vous en livrer une petite partie. Et sûrement qu'au cours des prochaines semaines, on aura l'occasion d'y revenir. Le dossier est signé Jean-Baptiste Verrieras. Alors, le premier article, elle pense, révélation sur l'intelligence des plantes. Douée de mémoire, capable de prendre des décisions et même d'apprendre. Les plantes démontrent des capacités cognitives aussi exceptionnelles que celles des animaux. Une surprise qui s'en double d'une autre. Leur intelligence se passe de cerveau parce qu'elles sont tout entières leur propre cerveau. Si elles pensent, c'est donc d'une façon radicalement différente de la nôtre. Décrypter cette intelligence du troisième type est-il possible? Une chose est sûre, du brin d'herbe aux grands arbres, notre relation au monde végétal vient d'entrer dans une autre dimension. À quoi pense une rose, une fougère? Un champignon, la mousse, un peuplier, un grand chêne? Drôle de question, n'est-ce pas, Hélène, quand je vous regarde? Déroutante même. Imaginez-vous à la place de n'importe lequel de ces êtres qui, s'ils sont bien vivants, n'ont pas de jambes pour se déplacer, pas de bras à étendre, pas de nez pour sentir, pas de bouche pour manger, etc. Par-dessus tout, ils n'ont même pas de cerveau. Cloués au sol, les végétaux ont une vie tellement contrainte et sédentaire qu'elle semble stupide. Que font-ils d'autre que pousser et faner au gré de la lumière qu'ils absorbent? Quelle pensée pourraient-ils seulement avoir? Sauf que les apparences sont trompeuses. Depuis peu, des botanistes d'un nouveau genre découvrent non seulement que les plantes font preuve d'intelligence, mais mettent aussi au jour les racines cognitives de celles-ci, contribuant à poser les bases d'un nouveau domaine scientifique en pleine expansion, la cognition végétale. Le chercheur italien Stefano Mancuso, qui a co-signé en 2006 l'un des articles fondateurs de cette approche, se réjouit. Il y a beaucoup de travaux publiés ces dernières années sur l'intelligence des plantes et sur leur capacité à traiter une grande quantité d'informations liées à leur environnement. Il y a d'ailleurs de plus en plus de jeunes biologistes, mais aussi des physiciens et des informaticiens qui s'y intéressent. Dès sa parution, l'article en question a suscité de vives réactions. Cela avait-il un sens de parler de neurobiologie végétale et d'attribuer de l'intelligence à un brin d'herbe? 36 scientifiques étaient alors montés au créneau pour critiquer l'usage à leurs yeux sacrilège d'une telle analogie qui semblait plaquer sur le règne végétal une notion propre au règne animal. Nous invitons les tenants de la neurobiologie végétale à retrouver le sens critique et à fonder ce concept sur des bases intellectuelles rigoureuses, concluait-il sèchement dans leur tribune. La définition de Darwin. Comme souvent lorsqu'il y a malentendu, encore fallait-il s'entendre sur les mots, à commencer par cette notion d'intelligence. J'ai moi-même changé d'avis sur la question, reconnaît Francis Allais, défenseur émérite de la dignité de nos cousines vertes, et un temps réticent à utiliser ce mot pour en parler. Je m'en tenais alors, fidèle à mon éducation, à la stricte définition du dictionnaire. Mais l'homme est par trop juge et partie dans cette définition. J'ai donc renoué avec une définition plus large de l'intelligence, qu'usait d'ailleurs déjà Charles Darwin. Pour le fondateur de la théorie de l'évolution qu'est Darwin, être intelligent, c'est avant tout agir intelligemment, sans présupposer les moyens par lesquels cette action est réalisée. Il faut toujours avoir à l'esprit que la question de l'intelligence ne se pose que lorsqu'un comportement jugé comme tel a été observé chez un organisme, pose le philosophe et botaniste Paco Calvo, responsable du laboratoire d'intelligence maximale à l'Université de Murcie dans le sud-est de l'Espagne. Le botaniste britannique Anthony Trevavas, qui a engagé sa notoriété scientifique pour défendre l'initiative de son confrère italien, inscrit la biologie cognitive dans cette optique darwinienne. Je considère que l'intelligence chez les plantes a trait avant tout à leur capacité à survivre dans leur environnement. Il s'agit de leur aptitude à résoudre des problèmes spécifiques à leur existence et d'affirmer, sans détour, les végétaux présentent des comportements que les neuroscientifiques eux-mêmes décrivent comme des formes basiques d'intelligence. Lorsque les botanistes calent leur montre sur le rythme lent de la croissance végétale, leurs observations ne laissent en tout cas aucun doute. La moindre ronce en quête de lumière ressemble à un serpent qui se coule vers sa proie. Le moindre arbuste se révèle doué de mémoire, capable de prendre des décisions, apte à communiquer avec ses voisins, prête à l'entraide en cas de besoin. Enracinées à vie, les plantes ont développé au fil des millions d'années un impressionnant arsenal de comportements intelligents en vue d'affronter les caprices et les dangers de la nature. La sélection naturelle agit en premier lieu sur les individus et arrache à chaque génération, telle de mauvaises herbes, tous ceux qui ne font pas preuve d'un minimum d'intelligence pour survivre, précise Anthony Trevavas. Chaque plante perçoit ainsi en continu son environnement, traite de multiples informations, fait appel à sa propre mémoire afin de prendre la meilleure décision en vue d'améliorer ses chances de survie. Alors voilà, pour vous mettre l'eau à la bouche, ce premier article sur l'intelligence des plantes. Je rappelle la source, Science et vie, décembre 2017.
Merci, Francine. Je pense que je vais écouter mes plantes un peu plus dorénavant. Alors, nous revoilà en studio. Hélène Bédard au micro. Je veux vous faire part d'une chronique que j'ai lue, une très, très belle chronique. Ceci est publié par Mme Myriam... Juste un moment, je vais vous le dire à la fin, de toute façon. C'est une chorale qui redonne espoir aux femmes en détresse. Ça s'appelle « Les voix du cœur ». Une violoncelliste à la retraite, qui a 76 ans, Mme Monique Leclerc, qui organise tout cela. Donc, depuis 6 ans, une chorale réchauffe le cœur des femmes à risque d'itinérance ou meurtries par la vie à Montréal. Elles sont 10 à venir chanter tous les jeudis à la maison Olga de l'organisme La Rue des Femmes, sous les encouragements, évidemment, de la violoncelliste bénévole, Mme Monique Leclerc, dont je parlais au début. Donc, le reportage de Myriam Fimbri, voilà, je l'ai retrouvé, de 30 décembre dernier. Ce n'est pas une chorale comme les autres. Le local de répétition est situé à la Rue des Femmes, là où, toute la journée, les plus démunis de la société viennent chercher un repas chaud, des vêtements ou un lit pour la nuit. En arrivant dans le corridor, elles peuvent entendre résonner des chants. La chorale est ouverte à toutes. Une simple porte les sépare. Mais le seuil n'est pas toujours facile à franchir. Les femmes qui viennent ici ont toutes connu la détresse financière, de l'isolement, de l'abandon, abandon de leur famille, de leurs amis, de leurs conjoints. Certaines ont vécu les pires violences. Avec toutes ces blessures à penser dans la tête et le corps, elles n'ont pas de travail. Leurs liens relationnels sont brisés, mais chaque jeudi après-midi, attention, un petit miracle se produit. Même s'il y a des chagrins à fleur de peau, des nœuds coincés dans la gorge, des angoisses pour demain ou des souvenirs douloureux, tout devient d'un seul coup plus beau et joyeux. C'est le jeudi de Monique. Monique Leclerc arrive donc avec son violoncelle et les bras chargés de paquets, avec, à l'intérieur, des petites surprises, soit des muffins faits maison, une attention pour chacune. Ce sera pour la pause, après avoir fait 2 ou 3 chants. Elle arrive aussi avec plein de câlins qu'elle distribue sans retenue, en serrant longtemps et bien fort ses écorchées vives qui manquent de tendresse par-dessus tout. Dans cette chorale, comme dans toutes les autres, on fait des exercices de respiration pour commencer. Mais ici, respirer, c'est ne pas pleurer. Il faut inspirer profondément, encore et encore, et expirer le plus loin possible. Après, on se laisse aller à la joie de chanter et d'oublier. Chanter libère les voies respiratoires et occupe l'esprit. La concentration est requise pour lire la bonne strophe, tout en regardant Monique suivre le rythme et les crescendo, puis articuler les paroles pour se faire comprendre d'une personne imaginaire au fond de la salle. Mais la tristesse, cette fidèle compagne, revient au détour d'une rime sournoisement. Car le chant fait remonter bien des émotions. Prenez par exemple l'incontournable Noël de la rue d'Édith Piaf. Au programme des répétitions avant les fêtes. La lumière et la joie sont derrière les vitrines. Ni toi, ni pour moi, c'est pour notre voisine. Je ne peux pas la chanter. Je vous la cite. Véronique, Maria, Anna et Ginette chantent avec entrain, se balancent, dansent en tenant leur répartition. Et leur partition. Toutes pensent à la même chose, à ces fêtes inaccessibles, remplies de gâteries, de cadeaux, d'amour. Il y a aussi cette histoire magnifique que toutes adorent chanter à embrailler. 2 petits chaussons blancs de Charlie Chaplin. C'est un clown qui meurt d'amour pour une danseuse. Ça nous rejoint un peu tous dans le fond, dit Monique Leclerc. C'est relié au besoin qu'on a tous d'être aimé et d'aimer. Alors, à un moment donné, tout le monde était en larmes. C'est bien. Sans même que personne raconte son histoire à l'autre, on se rejoint dans un silence qui est chanté. Monique Leclerc, 76 ans, des cheveux gris rassemblés en chignon. Moi, j'ai une photo ici, je peux vous dire qu'elle est magnifique. C'est la grande maman aimante et généreuse des contes pour enfants. C'est aussi la conjointe d'Oliver Jones, le musicien de jazz. Elle a vécu une enfance heureuse et toute une vie dans l'enseignement de la musique avec des voyages en Europe pour apprendre le violoncelle à des enfants pas trop démunis. Un beau jour, il y a 6 ans, elle est venue à la Rue des Femmes pour offrir ses services. C'est ainsi que la chorale, qui s'intitule « Les voix du cœur », a vu le jour. Il me semblait qu'on aurait besoin du cœur dans ma grande entreprise. Là, vous savez, on va essayer de faire chanter les voix du cœur, ce que le cœur peut avoir de voix, ou ce qui lui reste de voix. C'était comme ça que la chorale devait s'appeler, pas parce que c'est une histoire, parce que c'est une histoire de cœur. Les choristes sont au nombre d'une 12 les meilleurs jours, avec un noyau dur de 5 ou 6 mordus. Certaines viennent faire un tour, s'assoient pour écouter, repartent avec un gâteau. Peut-être qu'elles reviendront chanter la prochaine fois, ou peu, ou pas. Peu importe, la chef de chœur accueille tout le monde avec un grand sourire et ses bras, pleins de tendresse.
Si elles reviennent, elles auront la chance peut-être de reprendre confiance en elles, de retrouver un peu de cette estime de soi perdue, et même un jour, qui sait, de se trouver belle. Monique les appelle toujours ces belles dames. Elle les couvre de compliments et de « bravo mes amours ». Pendant 4 heures, c'est du positif absolu. Ça leur fait un bien énorme, et à moi, presque encore plus. Les Voix du cœur donnent des concerts 4 ou 5 fois par an. Elles sont là pour réchauffer les plus démunis à la nuit des sans-abri. Et c'est vrai parce que j'y étais, c'est mon commentaire. Ou pour remercier les généreux donateurs et bienfaiteurs de la rue des femmes. C'est là que chacun revêt ses plus beaux habits et se sent incroyablement fier. Les personnalités invitées applaudissent chaleureusement quoi qu'il arrive. Car le but n'est pas de faire une grande performance. Nous ne sommes pas Callas ni Pavarotti. Dit la chanson « Viens-t'en dans la chorale » écrite par Monique Leclerc, c'est plutôt une performance du cœur.
Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Dresser avec vous ce lien et cette délicatesse, vous mes amis d'hier et d'aujourd'hui, cette amitié dans la continuité, un mot, un regard, un silence, un sourire, une lettre. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Françoise, Hélène, Claire, Patrick, Kim, Renaud et Jean-Louise, et tous les autres que je ne saurais nommer, vous êtes mes soir de détresse, la goutte d'eau qui fait jaillir la source, ma lumière. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Aujourd'hui pourtant en vain, je vous espère. Où êtes-vous? J'appelle, je tends les bras. Nos amitiés se sont évanouies. Peut-être n'avons-nous plus rien à nous dire. Je chavire. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. Tendre, tendre. Douce, douce, ce soir j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Pourtant nous savons que la vie est plus forte que la mort, le désespoir a dit son dernier mot. Permettez-moi de vous aimer toujours, riche de nos secrets. J'attendrai, 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 j'attendrai les amitiés nouvelles. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse, tendre, tendre, douce, douce.
Un grand, grand classique de Pauline Julien. Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse.
Merci beaucoup, Mathieu. C'était ce qu'il fallait. Ça nous réchauffe. Là. Vraiment, ça nous réchauffe. Là. Merci beaucoup. Nous revenons avec Francine. Ah, j'ai bien hâte qu'elle nous parle de son prochain sujet, parce qu'on a échangé un petit peu. Là. Alors, c'est à toi, Francine. Vas-y.
Restons zen. Les aides arrivent. Le 29 décembre dernier, dans Le Devoir, Isabelle Paré a publié une chronique, ma foi, intéressante, drôle, sur justement cette nouvelle génération. Ça y est, c'est fait. T'auras 18 ans cette année. Voici venu le temps pour ta génération, née au tournant de l'an 2000, d'entrer dans le grand monde des adultes. Après les flamboyants baby-boomers, les malmenés de la génération X et les petits futés du millénaire, c'est à votre tour, les Z, d'être la coqueluche des médias et la proie des fils de pub. Depuis quelques mois, tout le monde ergote sur votre arrivée en bloc dans la cour des grands, sur la vie que vous partagerez ou pas avec des robots, sur les emplois pas encore inventés que vous devrez créer. Même les millénarios, centres d'attraction depuis le tournant du millénaire, sont quasiment en mode déprime. Sortez vos iPods de vos oreilles, les experts du marketing vont tout vouloir savoir de vous, puis vous blâmeront pour une foule de tendances qui n'ont rien à voir avec vous, comme la disparition d'une émission de télé ou une nouvelle prétendue nouvelle drogue, prévenait dans sa chronique sur BuzzFeed une Y en plein postpartum. En filigrane, tous se demandent comment vous changerez le monde. Changer le monde? Oui, le mot est gros. Faut que je t'explique. Depuis que les boomers en ont fait leur slogan, on s'attend à ce que chaque génération change le cours de la planète. Les enfants du baby-boom disent avoir changé le monde en faisant exploser les moules de la société traditionnelle. Ils ont enterré la religion, inventé le divorce, l'amour libre et mis au monde le flower power. Paf! Ils sont devenus la vedette des médias. Du coup, nous, les X, on a eu l'air vraiment nul après. D'abord, travailleurs précaires, on a dû inventer le travail à la pige, les clauses de disparité de traitement, les rapports trimestriels d'impôts, les congés de maternité. Pas trop classe. Les aides passées au rayon X. J'avoue que je suis un peu allergique à l'étiquette Z que les vendeurs du temple vous accolent déjà, comme si l'humanité pouvait être ramenée à la façon dont elle pitonne sur son téléphone, achète ou pas du shampoing ou un McMuffin. Mais avec deux Z sous mon toit, même encore petite, c'est sûr que mon radar s'est mis en mode alerte dès qu'on s'est mis à pérorer à votre sujet. En toute X que je suis, je m'inquiète. Normal, je suis de la génération des anxieux limites pessimistes, élevée dans la déprime post-référendaire, de l'amour à l'ère du sida et du taux de chômage caracolant autour de 14 %. Je m'inquiète parce que déjà, on dit que vous vivrez dans un autre espace-temps que le mien, celui de la double citoyenneté, réelle et numérique. Née avec un cellulaire dans la couche et un iPad en guise de hochet, les millénarios sont des touristes du numérique à côté de vous. Ils ont beau se la jouer branchée sur Facebook et inonder Pinterest de peaux maçons, les Y vont vite devenir les piouis du prochain monde connecté. En filigrane, tous se demandent comment vous changerez le monde. Ma sociologue préférée, Diane Packham de l'Université d'Ottawa, pense que vous serez les dignes descendants des X. Pas des rêveurs comme les Y, rejetons des boomers. Plutôt des pragmatiques à la puissance 10, sans l'angoisse existentielle qui vient avec. Ce sont des entrepreneurs nés, autonomes. Ils créent leur chaîne YouTube, évoluent dans un univers culturel parallèle au nôtre, n'ont besoin de personne. Ce sont des inventeurs passés maîtres dans l'autopromotion, puisqu'ils façonnent leur identité sur les réseaux sociaux depuis l'enfance, pense Mme Packham. Autonome, ça oui. Tes premiers travaux d'école ont été créés sur Prezi et tu cumulais les vidéos sur iMovie avant même de maîtriser tes tables de multiplication. Les bons de l'éducation disent que ta génération, les synapses en constante alerte, sera celle du multitâche, mais dotée d'une capacité de concentration à peu près nulle. Même votre cerveau, nourri au pablum numérique, se développe différemment, analyse les scientifiques. j'ai beau jouer les optimistes, mon X intérieur vient à nouveau me chicoter. Zorro d'un monde numérique. Des enfants rois, paraît-il, on passera donc aux enfants lucides. Un peu de pragmatisme ne fera pas de tort en cette ère de paradoxes. Un jour, vous rigolerez bien de nos politiciens passés à l'histoire pour avoir réussi la légalisation du pot et l'interdiction des boissons sucrées. Vous rirez moins de leur prétendue société du savoir qui laissait sortir le quart des élèves du secondaire sans diplôme en poche. On vous donne le sobriquet de Génération Z, comme dans Zapper. Franchement, comparez votre fébrilité intellectuelle à la télécommande d'une antiquité que vous n'avez du reste jamais vraiment adoptée, c'est minable. Tant mieux si vous zappez. Et comme vous aurez bientôt le droit de vote, faites-nous plaisir, chers euros du numérique. Zapper Trump, ça presse. Juste pour ça, l'humanité vous sera éternellement reconnaissante. Alors, c'est une chronique de Isabelle Paré sur les Z, c'est-à-dire qui sont nés au tournant des années 2000, le devoir du 29 décembre 2017.
Ah, j'en redemande. Ah, oh, mais vraiment, j'en redemande de cet article. Fort intéressant. Merci beaucoup, Francine, de dénicher quelque chose de bien intéressant. Et voilà, nous sommes presque rendus à la pause réglementaire. Alors voilà, au retour, moi, je vais vous entretenir d'un bel entretien avec Mme Jeannette Bertrand, qui, je suis tout mêlée dans les X, Y, Z, là, je ne sais plus de quelle génération elle est, mais de Mme Bertrand, donc. Ensuite, je vais vous parler des bienfaits de la sieste. Fort intéressant, d'ailleurs. Je vais avoir des belles surprises à vous révéler à ce sujet. Alors, je vous en prie, restez avec nous pour la suite de l'émission Les Voies de service. Ça se poursuit après la pause pour notre deuxième volet.
Sie war am Bahnhof an, auf irgendeiner Landebahn, in einer großen weißen Stadt, die irgendwer erfunden hat. Und irgendwer steigt dann da ein, rauscht in die blaue Nacht, ist irgendeine Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an alles, was sich irgendwie bewegt. Komm, sag mal du. Ich höre dich nicht. Halleluja, mein zu weit weg Mädchen. Sag grad, sie glaubt an mich. Sag grad, sie glaubt an mich. Mal bist du da, mal bist du hier. Ich schreib jetzt wieder auf Papier, damit ich mich noch möglichst lang auf deine Antwort freuen kann. Wenn alles in dir links rumfährt, ist keiner da, der dir es erklärt. Ich bin jetzt mal ne Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an alles, was sich irgendwie bewegt. Komm, sag mal du. Ich hör dich nicht. Halleluja, mein zu weit weg Mädchen. Sie glaubt an mich. Sag grad, sie glaubt an mich. fährt. Ist keiner da, der dir es erklärt. Ich bin jetzt mal eine Weile weg. Menschen haben kein Versteck. Ja, was soll man da sagen, ey? Ich glaube an dich. Ich glaube an dich. Ich glaube an alles, was sich irgendwie bewegt. Komm, sag mal du, ich höre dich nicht. Halleluja, meinst du weit weg, Mädchen? Sag grad, sie glaubt an mich.
Ah, Schnellerlung, Julia. C'était la chanson du Weit weg Menschen. C'est une chanson en allemand, évidemment, du groupe Fortuna Ehrenfeld.
Mathieu, vraiment, ta diction nous fait honneur.
Ouf, j'essaie.
Nous voici de retour. Donc, Mathieu à la régie, Francine Forget avec moi, Hélène Bédard au micro. Alors, tout à l'heure, je vous ai quitté en disant que j'étais tout mêlé dans les XYZ. Francine va me démêler à l'instant.
Hélène, on parlait de notre chère Jeannette Bertrand, qu'on aime bien toutes les deux. Je vais essayer de vous le dire sans rire, là, mais d'après les dates de naissance, elle serait de la génération silencieuse. C'est-à-dire ceux qui sont nés entre 1901 et 1944. Alors, c'est la génération qui a vécu la grande crise, les guerres, qui a dû travailler dur, sans réclamer quoi que ce soit, d'où son nom de génération silencieuse. Ensuite, les baby-boomers, alors on se retrouve toutes les deux, élevés en période de prospérité, de plein emploi et de progrès. Les baby-boomers, pour cette génération, tirent son nom du taux de natalité qui a explosé durant les 30 glorieuses années. En plus du bouleversement des institutions sociales, cette génération a vécu avec l'arrivée de la pilule contraceptive, la révolution sexuelle et participé à l'effervescence du nationalisme au Québec. Suivi de la génération X, donc ceux qui sont nés entre 1960 et 1980, ils ont vécu la crise du pétrole, le chômage galopant de la récession du début des années 1980. Ils ont connu l'amour au temps du sida, vécu le repli post-référendaire et assisté au retour en bloc du conservatisme sous les règnes de Reagan et Thatcher. Ensuite, la génération Y, qu'on a appelé les millénarios, nés entre 1980 et 2000. Ces enfants des baby-boomers ont grandi à l'heure de l'information de la société, de l'informatisation plutôt de la société, de l'arrivée de l'Internet, de l'omniprésence des jeux vidéo. Ils ont été marqués par une époque où l'écologie et l'importance du bien-être personnel ont pris une place croissante dans la société. Et enfin, la génération Z, dont on a parlé tantôt. Alors, toutes ces définitions apparaissent à la fin de l'article de Mme Paris dans Le Devoir du 31 décembre.
Formidable. Merci beaucoup, Francine, de m'avoir démêlée. Je vais enchaîner immédiatement avec l'entretien dont je vous parlais au début, l'entretien qui a été effectué par nul autre que Claudia Larochelle, une auteure bien connue et tout à fait formidable. Alors, et notre porte-parole.
Oui, c'est
ici.
La porte-parole de Vues et Voix depuis au moins 3-4 ans, je pense.
Bon, il me semblait bien que j'avais vu sa photo partout ici. Merci, Mathieu. Donc, Mme Jeannette Bertrand signe le roman avec un grand A, qui raconte l'histoire d'une famille bouleversée par la découverte de la bisexualité du père. Claudia Larochelle a donc fait cet entretien le 9 décembre dernier. Ceux nés avant les années 1990 se souviennent sans doute des dramatiques « L'amour avec un grand A » qui a été diffusé sur les ondes de Radio-Canada, de Radio-Québec, je m'excuse, devenu plus tard Télé-Québec. Il n'y a pas une semaine qui passe sans que leur célèbre auteur, Mme Jeannette Bertrand, se fasse demander d'en réécrire. À défaut d'effectuer un retour au petit écran, c'est avec un livre qu'elle revient aux sources. Un roman intitulé donc « Avec un grand A, l'histoire de cette famille ». Dont je vous ai cité au début. À 92 ans, comment faites-vous, Mme Bertrand, pour rester en accord avec l'époque actuelle? Elle répond. Le fait d'avoir enseigné pendant 20 ans, jusqu'à l'année dernière, donc jusqu'à ce qu'elle ait 91 ans, et d'avoir 8 petits-enfants, dont je suis très proche, me garde dans le coup. La bisexualité est un sujet qui est revenu à quelques reprises dans des conversations avec eux. Il faut dire aussi que je lis tout, j'ai une grande curiosité. Madame La Rochelle lui demande, « Est-ce que c'est vrai que la bisexualité représente encore, pour certains, une orientation sexuelle floue? » Elle répond tout à fait, « Certains vont jusqu'à penser que c'est un mythe, et pourtant, la bisexualité, comme l'homosexualité, n'est pas un choix. Dans mon livre, un homme tombe amoureux d'un autre homme. C'est pas juste une histoire de sexe, comme certains le prétendent, quand il est question de bisexualité. » Madame La Rochelle dit, « Des termes comme queer, trans, bispirituel ou pansexuel, qui sont de plus en plus présents dans l'actualité, doivent vous inspirer? » Elle répond, « Oh, que oui, il y a une grande ignorance sexuelle en ce moment. C'est pour ça qu'il faut aller sur ce terrain. Il y a trop d'informations qui circulent et qui ne viennent pas nécessairement des meilleurs endroits. Je pense à la porno, par exemple, qui déforme la réalité. Il faut en parler, sinon ça crée du refoulement et de la détresse, voire même des suicides chez des gens qui ne se retrouvent nulle part dans toutes ces idées reçues. » Et en terminant, elle lui demande, « Vous arrive-t-il encore de douter de vous? » « Mais bien sûr, dit-elle, je sais que je suis une privilégiée, que j'ai toujours eu plusieurs flèches dans mon carquois. Animation, écriture, enseignement, interprétation. Bref, je me suis démenée parce que je suis une fonceuse et que je ne tiens rien pour acquis. Malgré tout ça, j'ai encore et toujours des doutes sur la façon dont mon travail sera reçu par les gens. Je me croise donc les doigts. » C'était une très belle entrevue de Mme Bertrand, dite de la génération silencieuse, qu'il croirait. Nous allons enchaîner avec une très belle trouvaille de Francine dans la presse. C'est la mode du bio, mais je la laisse vous en parler.
Oui, Hélène, ça vous a bien étonné tantôt quand je vous ai dit que la mode du bio n'a pas encore commencé au Québec. Alors, c'est dans la section débat du 2 janvier 2018 de la Presse Plus. Quand cela a-t-il commencé et où en sommes-nous? La question a été posée à certains des collaborateurs de la Presse Plus sur différents sujets. Leur réponse est présentée dans différentes chroniques. Aujourd'hui, André Fortin et Jean-Philippe Warren et la mode de l'agriculture biologique. Alors, il faut dire que Mme Fortin est professeure émérite à l'Université Laval et M. Warren, professeur de sociologie à l'Université Concordia. Quand commence la mode du bio au Québec? Autant se demander quand commence l'agriculture spécialisée et industrielle, puisque nos aïeux pratiquaient déjà une agriculture biologique, sans le savoir. Cela change dans les années 50. On assiste alors au Québec à une tendance plus marquée vers une exploitation agricole intensive. L'utilisation des engrais chimiques passe de 1,4 tonnes par ferme en 1957 à 3,6 tonnes par ferme 10 ans plus tard. Les fermes tendent à devenir de grosses entreprises commerciales. L'alimentation des Québécois en est directement affectée. Les supermarchés distribuent désormais sur leurs rayons le pain blanc tranché, le fromage fondu Cheese Whiz et le sirop de poteau. Manger macrobiotique. C'est dans ce contexte de transformation accélérée de l'alimentation québécoise que des pionniers commencent à prôner un retour à un rapport plus sain à la nature. Ils soutiennent que les aliments qui se retrouvent dans l'assiette des Québécois seraient progressivement vidés de leur valeur nutritive. Plus encore, ils croient que la massification de l'élevage et de la culture constitue un danger pour l'humanité. Dès la fin des années 60, ils invitent par conséquent ceux qui cuisinent à la maison à éviter les produits qui contiennent de la farine blanchie, du sucre raffiné, des additifs chimiques, des agents de conservation ou des saveurs artificielles. Commencent à circuler dans les chaumières québécoises des recettes de végé pâté, de boulettes de tofu, de soupe au miso et de gâteaux de millet. Pour s'assurer de la qualité des produits consommés, on encourage les gens à produire, toujours dans les années 60, les ingrédients servant à la préparation des repas. Faire son yogourt, ses germinations, son tofu à partir des fèves de soya non cuites, son pain à partir de grains de blé biologique, son seitan à partir de farine de blé, ses marinades et ses confitures. Il est conseillé de cultiver son propre jardin en ville. À ceux qui n'ont pas le temps ou l'espace pour faire pousser leurs légumes, on suggère de fréquenter des coopératives d'alimentation naturelle. L'objectif est de se donner non seulement des moyens de produire autrement, c'est-à-dire en harmonie avec la nature, mais aussi de distribuer largement cette production. Nourrir son corps et son esprit. Parmi de multiples initiatives qui fleurissent à cette époque, mentionnons l'ouverture en 1969 à Montréal du restaurant aux petits oiseaux, où l'on vend des bouteilles de sauce soya, des herbes, des feuilles, du riz, des écorces, produits que les clients pèsent et emballent eux-mêmes. Le documentaire de Pierre Archambault aux petits oiseaux en 1970 restitue assez bien l'esprit qui règne dans cet endroit, qui emprunte autant au folklore québécois qu'à la spiritualité orientale. D'autres restaurants suivent les traces de cet établissement. Peu à peu, le Ghetto McGill, le Quartier Latin et le Plateau s'animent de coopératives d'alimentation naturelle et de projets de jardins communautaires. Fondé en 1974, le Mouvement pour l'agriculture biologique au Québec, qui regroupe des agriculteurs et des artisans souhaitant encourager une agriculture durable, entretient déjà des préoccupations environnementalistes. On veut assurer un développement respectueux de la nature et des rapports humains authentiques. Car disons-le, à cette époque, l'idéal d'une diète dite macrobiotique est alors à la fois corporelle et spirituelle. Pour les pionniers québécois du bio, l'acte de manger lie la personne avec la nature, les autres et soi-même, selon le dicton « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». Il s'agit de nourrir autant son corps que son esprit. Ainsi, dans un numéro de 1971 du magazine Mainmise, on peut lire « Nous considérons comme un devoir social, sinon spirituel, que chacun révise sa fonction alimentaire. Notre cerveau, mais aussi notre âme, notre sang, mais aussi nos sentiments, ont besoin d'une bonne nourriture et d'une bonne cuisine. » À quand le début de la mode bio au Québec? Aujourd'hui, la mode du bio est bien différente de ce qu'elle était il y a 50 ans. Les gens s'inquiètent davantage de l'effet des gras trans et des produits transgéniques sur leur santé que sur leur spiritualité intérieure. Même l'intérêt pour la question environnementale prend une tournure individualiste et matérialiste. Or, en ne remettant pas en question l'ensemble du cycle de la production, mais seulement certains éléments de celui-ci, il devient difficile de renverser la puissante dynamique agricole industrielle. Cela permet d'expliquer que les agriculteurs canadiens actuels utilisent deux fois plus d'azote provenant d'engrais chimiques que 30 ans plus tôt. Au fond, la mode bio n'a peut-être pas encore vraiment commencé. Alors, cette opinion des professeurs André Fortin et Jean-Philippe Warren a été publiée dans la section débat de la Presse Plus du 2 janvier 2018.
Bien, je crois que je la partage, cette opinion, maintenant, après cette lecture. Merci, Francine.
Ça me fait plaisir.
Retour avec un sujet qui m'a étonné quand je l'ai lu, mais qui je me rends compte que moi aussi, j'aimerais bien ça, faire des petites siestes de temps en temps. Je vais vous en parler. Alors voilà, ça y est, mon régisseur est parti en faire une. Ouf! je le vois. Voilà. Alors, c'est un... Les siestes, on dit, bon, pourquoi, quand, comment, tout ça. Mais je vais vous parler des bienfaits de la sieste. La sieste, c'est pour tous. La sieste est souvent délaissée à l'âge adulte, ce qui est bien dommage, étant donné tous les bienfaits qu'elle apporte à l'organisme. Elle est donc fortement recommandée pour tous, à tout âge, en particulier aux personnes âgées, qui dorment moins bien et moins longtemps la nuit. Pour faire une sieste donc leur permet donc d'atteindre le quota d'heures de sommeil journalière pour rester en bonne santé. Les bienfaits de la sieste sont nombreux. Elle permet de prévenir les troubles de la vigilance, de l'attention et favorise aussi la concentration. Par ailleurs, elle stimule la mémoire et la créativité. Sur le plan préventif, elle diminue les risques de maladies cardiovasculaires, réduit la tension et renforce le système immunitaire. En outre, elle rend bonne humeur. Mais il n'y a que des bienfaits dans ce texte et dans cette sieste. Qu'est-ce qui se passe quand on manque de sommeil? Toutes les études convergent en ce sens. Les effets du manque de sommeil sur l'organisme se ressentent de manière néfaste à plusieurs niveaux. Comme je le disais tout à l'heure, donc stress, manque de concentration, saut d'humeur. Les siestes permettent donc de rattraper le sommeil perdu, à condition, et attention, de ne pas excéder 30 minutes, avis à mon régisseur. Sans quoi, elle ne ferait qu'aggraver les problèmes reliés au manque de sommeil. La sieste peut se pratiquer à n'importe quel moment de la journée, excepté en fin de journée. Le coup de pompe se fait souvent sentir après le déjeuner en raison du processus de digestion, en fait après le repas, si on peut dire. On l'observe donc souvent après le petit déjeuner et le repas du soir. À l'inverse, l'envie de dormir est absente chez les individus qui sautent le repas du midi. Tiens donc. Au bureau. Et où la faire, au bureau, dans les transports en commun, ou sur le siège de la technique, la siège peut se pratiquer n'importe où, en fonction des aptitudes de l'individu au lâcher-prise.
Et voilà, je le savais bien.
Si certains auront besoin d'un environnement calme et propice au repos, d'autres seront capables de s'endormir dans un brouhaha général. Le tout est de se sentir à l'aise en veillant à adopter une bonne posture sous peine de se réveiller, évidemment, avec des douleurs musculaires ou articulaires. Le mieux est d'être allongé, mais si c'est impossible, on veillera à bien se caler dans le fond de son siège, comme je viens d'assister, pour avoir le dos bien droit, avec la tête légèrement penchée en arrière, posée sur l'appui-tête, ou au contraire, penchée vers l'avant. Les pieds seront bien à plat sur le sol, l'ensemble des muscles doit être parfaitement détendu et la respiration profonde. Une sieste standard dure 20 minutes. Sa durée dépendra surtout de chaque individu ou du temps dont il dispose. La sieste est efficace si au réveil, on ne se sent pas plus fatigué qu'avant et qu'on ne se sent pas complètement déboussolé. Si tel est le cas, la sieste a été trop longue, il faudra revoir sa durée à la baisse pour la prochaine fois. Il y a aussi ce qu'il existe des micro-siestes, 10 minutes. On dit que ce serait plus bénéfique, que les siestes trop courtes de 5 ou trop longues de 30. Elle permet donc d'améliorer les capacités cognitives, donner de l'énergie et d'accroître la vigilance. Contrairement aux siestes plus longues, elles ne provoquent pas de somnolence post-réveil. Pour en avoir fait à l'occasion des micro-siestes, je sais que c'est vrai, c'est ma petite opinion personnelle. Des études ont mis en évidence que la sieste augmentait les performances cognitives et psychomotrices de l'individu, ce qui se traduit concrètement par une meilleure mémorisation des apprentissages et une créativité accrue. J'en viens donc au milieu du travail. Les grandes entreprises l'ont compris et sont ainsi de plus en plus nombreuses à l'encourager auprès de leurs employés. Demain, tous artistes et productifs grâce à la sieste. Un texte de Audrey Dulieu dans Passeport Santé. Bon, nous avons toutes terminé une micro-sieste. Nous continuons avec Francine. Voilà.
Oui, dans un tout autre ordre d'idée, évidemment, on ne peut pas faire une émission sans parler technologie. Surtout que la fin de la presse papier, à la fin de 2017, a été l'occasion, je dirais, de revenir sur l'ère numérique largement pendant cette période. Juste trois petites inventions qu'on relie à l'ère numérique, dont on a parlé dans la presse plus, justement, dans l'édition du 31 décembre 2017, sous la plume d'Étienne Plamondon et Emmanuel Mosaïan-Verchev. En 1943, donc c'est assez récent quand même, le calculateur Colossus, en pleine Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne, cherche la clé pour déchiffrer certains messages codés transmis entre les Allemands. Pour y parvenir, elle met au point le calculateur Colossus pour percer le mystère du code Lorentz utilisé par l'ennemi. Le calculateur était capable d'effectuer 5000 opérations à la seconde. Une autre invention de l'ère numérique, reliée à l'ère numérique, en 1946, l'ordinateur ENIAC. Le coup de foudre pour l'ordinateur se produit le jour de la Saint-Valentin 1946. L'Electronic Numerical Integrator and Calculator, ENIAC, est dévoilé à l'Université de Pennsylvanie devant un public médusé par sa capacité de calcul, 1000 fois plus rapide que les calculatrices mécaniques de l'époque. La machine de 30 tonnes vise d'abord à prévoir les trajectoires balistiques, mais sera la base de développement informatique. Et enfin, la dernière dont je vous parle aujourd'hui, la puce, en 1958, la fameuse puce. Alors, la course à la miniaturisation est lancée par Jacques Kilby et Robert Noyce en 1958, chacun de leur côté, avec ses fils de connexion qui dépassent. Celui-ci rappelle un insecte, ce qui lui vaut le surnom de puce. Le silicium, semi-conducteur utilisé dans sa fabrication, inspirera le nom de Silicon Valley.
Merci beaucoup, Francine. Merci beaucoup, Francine, de ce texte fort intéressant. Je vais vous parler de, en début d'année, comment apprendre à être heureux. Eh bien oui. Qu'est-ce que le secret d'une vie réussie et être heureux? Le psychiatre Robert Waldinger de l'Université de Harvard a sculpté la vie de 700 Américains pour obtenir cette réponse. Vivre heureux, c'est s'entourer. C'est avant tout privilégier les rapports sociaux. S'entourer, mais s'entourer avec les bonnes personnes. Parce qu'il prétend, lui, que, et je suis d'accord avec lui, éviter la solitude, car elle tue. S'entourer, c'est sûr, mais il faut s'entretenir de bonnes relations. Il ne suffit pas d'être entouré pour être heureux. Encore faut-il être avec les bonnes personnes. La qualité de vos relations proches qui compte. Vous pensiez être à l'abri de la solitude avec vos 500 amis Facebook? Une étude menée en 2013 de l'Université du Michigan suggérait que plus les sujets se connectaient au réseau social, plus ils étaient tristes. Robert Waldinger insiste aussi sur un autre aspect essentiel des relations, l'absence de conflit. Les mariages conflictuels, par exemple, sans beaucoup d'affection, sont très mauvais pour notre santé, peut-être même plus que les divorces. Donc, pour vivre heureux et en bonne santé, mieux vaut être seul, évidemment, qu'être mal accompagné. Voilà. Être heureux pour mieux vieillir. Ce n'est pas leur taux de cholestérol qui prédit comment on allait vieillir. Les gens qui étaient les plus satisfaits dans leur relation à 50 ans étaient donc ceux qui étaient en meilleure santé à 80 ans. Nous savons depuis la nuit des temps que le bonheur se partage. Alors pourquoi avons-nous tant de difficultés à l'appliquer au quotidien? Eh bien, nous sommes humains. Ce qu'on aimerait, c'est une solution facile, quelque chose qu'on peut obtenir, qui nous rendrait la vie belle de façon rapide. Les relations sont désordonnées et compliquées, et s'accrocher à la famille et aux amis, ce n'est ni sexy ni glamour. On n'a pas le temps, si brève est la vie, pour les chamailleries, les excuses, l'animosité, les règlements de compte. On n'a que le temps d'aimer, et qu'un instant, pour ainsi dire, pour le faire.
C'était un très beau texte que j'ai trouvé dans la revue Passeport Santé. Encore une fois, c'est une de mes revues Internet chouchou. Je vous remercie. Nous sommes presque rendus à la fin de l'émission. Maintenant, je tiens à remercier Mathieu. Merci pour ton ingéniosité et ta grande patience avec nous.
C'est un plaisir.
Merci, Francine. Toujours aussi intéressante. Mon Dieu, continuez de nous alimenter. Moi, ça me donne du
cœur. Merci, Hélène.
Et c'est Hélène Bédard qui vous dit au revoir. À la prochaine, à vendredi prochain. Et j'espère que vous allez tous bien d'ici là, malgré le froid intense qui nous guette. Au revoir.